Merci d'être venu. Certes, les fêtes ne sont pas imminentes, mais ne sont pas loin. Donc, il y a toujours des arguments. On ne vient pas en débat parce que les fêtes sont proches. On ne vient pas parce qu'il fait trop chaud. Enfin, nous, on vous remercie. Donc, je suis Georges Banu et j'ai écrit ce livre « Amour et désamour du théâtre » qui nous réunit aussi aujourd'hui pour justement développer avec des artistes certaines questions qui sont liées à cette relation ambiguë qu'on peut avoir avec le théâtre, de fascination et de rejet. Je l'ai dit la dernière fois, mais je crois que c'est une constante que... Tantôt on l'aime, tantôt on ne l'aime pas. Et que peut-être la richesse du théâtre vient aussi de cet étirement, de cet écartèlement plus ou moins dramatique. Aujourd'hui, le thème que j'avais proposé, c'était amour et désamour, mais respirer ailleurs. Respirer ailleurs, donc c'est pourquoi on a envie, et c'est le propre du théâtre, d'aller chercher d'autres expériences artistiques, de se livrer à d'autres expériences artistiques. Et j'ai proposé donc, et je les remercie d'être avec nous, à Pippo Del Bono et à Laurent Godet, de venir parler et échanger quelques idées autour de ce besoin de l'homme de théâtre d'aller ailleurs. Je me suis dit qu'au fond, il y a dans l'homme de théâtre une pulsion qu'on n'a pas, qu'on ne retrouve pas chez le musicien ou chez le peintre. Il y a le violon dingue, d'accord, mais enfin c'est une exception. Mais généralement, l'artiste qui se consacre à la peinture ou qui se consacre à la musique reste dans son domaine. Dans le théâtre, il y a des artistes qui restent entièrement fidèles au théâtre, qui vont qui font des expéditions vers le théâtre très très rarement pour revenir toujours au théâtre. Donc par exemple Mushkin, elle a fait Molière, mais le reste du temps elle l'a passé dans le théâtre. Eugenio Barba, il a passé son temps dans le théâtre, mais ces exemples sont très rares. La plupart des metteurs en scène de théâtre vont ailleurs, soit ils font du cinéma, ce qui a été le cas de Patrice Chéreau, ou ils font de l'opéra, ce qui est le cas de bon nombre de metteurs en scène aujourd'hui. Certes, on peut expliquer par des arguments qui entrent en ligne de compte, mais je ne crois pas qu'on puisse réduire des artistes très importants seulement à des arguments de notoriété. Si vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes moins connu que si vous êtes metteur en scène de cinéma. Le cinéma a une diffusion supérieure. Le cinéma apporte aussi le bénéfice de la durée. Les spectacles disparaissent par les films. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est une parenthèse, c'est que tous les gens que j'ai connus, Antoine Vitez, Ariane Mouchkin, quand ils étaient jeunes, ils juraient sur père et mère, jamais de vidéo. Quand ils ont commencé à vieillir et le temps s'est rétréci, ils font tous des captations. Donc, tout d'un coup, il faut laisser une trace et ça arrive assez tardivement. Mais il y a d'autres metteurs en scène qui sont attirés par la littérature, ce qui a été le cas d'Antoine Vitez, qui presque a fait de l'alternance, poème et mise en scène. Il faut bien dire aussi qu'il y a la pulsion inverse, très très rare, mais vraiment très rare, des metteurs en scène qui font du cinéma, des metteurs en scène du cinéma qui font du théâtre, ce qui était le cas, nous on l'a vu ici à l'Odéon, tentatives de théâtre de Bergman qui ont été très importantes à Stockholm. Mais on peut dire que globalement, il y a toujours une déception de la part du public au moins qui accompagne ces tentatives d'aller ailleurs. C'est pas un secret. Tout le monde dit que Chéreau était beaucoup plus fort comme metteur en scène de théâtre que comme metteur en scène de cinéma. Pourquoi a-t-il besoin d'aller au cinéma avec une telle insistance? Luc Bondy, ici même, il a essayé de faire du théâtre, du cinéma. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a essayé de faire du cinéma avec un succès plus que moyen et il a abandonné ce projet. Ce qui est assez intéressant, que Giorgio Strehler a voulu aussi faire du cinéma, mais lui, il n'a jamais osé aller jusqu'au bout. Il voulait écrire, il voulait faire un film sur la vie de Goldoni. Et Strehler donnait une très belle explication. Il disait « Je n'arriverai jamais à faire du cinéma parce que je ne peux parler qu'à la troisième personne, c'est-à-dire par le biais des personnages. Je ne peux pas parler à la première personne directement. Pour lui, le cinéma était un art confidentiel à la première personne, un art de la subjectivité. » J'ai posé cette question à Chéreau, et dans un livre que nous avons fait avec lui, avec Absude, avec Claire, il dit « Tout l'art doit être à la première personne. » Bon, tout l'art doit être la première personne, mais s'il y a première personne au cinéma et première personne au théâtre. Donc je me suis dit, est-ce que on va ailleurs pour chercher un autre rapport au corps? Est-ce qu'on va ailleurs pour avoir une autre relation avec le temps? Certes, tout le monde considère les metteurs en scène de théâtre qui vont à l'opéra comme des vendus. En partie, c'est vrai. Parce qu'ils ne savent pas lire la musique, les chèques sont très importants, mais en même temps, ils le disent tous, ils se confrontent à une autre expérience du temps. Le théâtre, ils sont le maître du temps au théâtre, ils ne sont pas les maîtres du temps à l'opéra. Le corps qui chante et le corps qui parle fonctionnent de manière tout à fait différente. Je crois aussi que on peut observer le fait que ces metteurs en scène de théâtre, même certains écrivains, se livrent à un va-et-vient. Je parlais avec Pipon, on va revenir tout à l'heure, à un va-et-vient, c'est-à-dire que nous sommes dans le théâtre et on va vers l'extérieur. Laurent, il est prosateur, romancier, il va vers le théâtre et il revient au roman. C'est comme si on se nourrissait de ce va-et-vient, de cette alternance des moyens, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines. Je ne vais pas reprendre, parce que c'était une très très vieille blague, mais qui est philosophiquement très importante. C'était, vous savez, du temps très dur du communisme, il y avait un juif qui était à Moscou et il obtient le passeport pour Tel Aviv. Et il reste 6 mois à Tel Aviv, et au bout de 6 mois, il revient à Moscou, et ainsi plusieurs fois. À un moment donné, un type du KGB l'appelle et dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas content à Tel Aviv, tu n'es pas content à Moscou, es-tu content ?» Et il dit « Dans l'avion ». C'est une phrase formidable, c'est-à-dire, on a besoin d'une expérience voisine, d'une expérience autre, qui apporte quelque chose qui vous manque dans le lieu d'origine. Et donc cette insatisfaction, et je dirais, est impropre de l'homme de théâtre. Et au fond, cette insatisfaction témoigne de l'obligation de l'homme de théâtre de travailler ce que j'ai appelé de travailler avec le manque. Il y a quelque chose qui manque, qui le séduit, mais qui manque, et ce manque, il le cherche en allant ailleurs, en trouvant d'autres moyens de communication, d'expression, car, et je termine cette longue introduction, car ce qu'on observe, c'est que, je ne vais pas revenir après la blague à la parabole biblique, mais que le metteur en scène de théâtre qui va ailleurs est comme un peu comme le fils prodigue. Il revient toujours au lieu d'origine, comme si toutes ces expériences le conduisent vers le lieu d'origine, l'entraînent vers ce qu'il a considéré à un moment donné comme en partie insatisfaisant, qu'il a cherché ailleurs, mais qu'enrichi de ses expériences, il regagne le foyer de départ. Chéreau disait, je l'avais déjà dit la première fois, il devait venir à la dernière rencontre avec Warlikowski, et il me disait, Georges, dès maintenant, je ne ferai plus que du théâtre. C'est une phrase a posteriori extraordinairement testamentaire, c'est-à-dire que dès maintenant je ne ferai plus que du théâtre. Il savait qu'il était malade, donc il y avait un retour, et ce retour on le retrouve chez la plupart des metteurs en scène. Donc pourquoi part-on, pourquoi revient-on? Et pour conclure, je crois que ces metteurs en scène qui vont ailleurs, qui reviennent, ne travaillent pas ou très rarement sur ce que j'ai appelé le disparate. Ils ne sont pas des Cocteau des temps modernes, dans le sens que on fait un peu de peinture, on est tellement brillant, on fait un peu de peinture, on fait un peu de ballet, un peu de théâtre, de cinéma. Je pense qu'il y a une, si je prends les exemples, une sorte d'expérience binaire entre un art et deux autres arts voisins, le cinéma et l'opéra, qui sont généralement liés au corps vivant. Et je pense qu'on peut observer que ce retour au foyer d'origine est une constante. On peut se demander pourquoi. Rappelle une très très belle phrase. Moi, c'est ma nature, c'est ma forme de pensée. J'aime beaucoup les histoires, les petites phrases qui cristallisent toute une pensée. Tchekhov disait, j'écris des nouvelles et j'écris du théâtre. La littérature, c'est ma femme. Le théâtre, c'est ma maîtresse. C'est une phrase très énigmatique. Que faut-il préférer, la femme ou la maîtresse? Quels sont les rapports qu'on entretient? Est-ce que le metteur en scène qui va vers l'opéra, il va vers la maîtresse ou il va vers une sorte d'autre femme supposée? Donc cette interrogation est très importante, et j'annonce tout le temps, c'est un défaut terrible que je connais d'annoncer constamment que je vais finir. Il y a une suite finale répétée comme ça. Mais enfin, ce qui est très intéressant, c'est que ces metteurs en scène qui vont ailleurs sont extrêmement... très souvent... c'est un producteur...
Non posso, ora un altro momento. Cioè, c'è una conferenza di teatro. Cioè, ciao, cosa siamo un produttore del cinema?
Voilà, c'est bon.
Chi telefona a me e quando il alle teatro, il arriva, ah. Jalouse. Suisse.
No, je voulais dire ça, c'est qu'au fond, c'est très grand metteur en scène de théâtre qui sont plus ou moins, comment dire... réservé à l'égard de l'accueil, où ils aiment bien que l'accueil soit très, très favorable pour un spectacle, mais ils sont d'une susceptibilité maladive, comme s'ils étaient d'une sensibilité névrotique, dès qu'on touche aux produits dérivés. On pouvait dire à Chéreau qu'on n'a pas aimé une mise en scène, mais on ne pouvait pas lui dire qu'on n'a pas aimé un film. C'est le film, c'était comme si ces œuvres dérivées, c'était un peu les enfants invalides. Et on veut, ils demandent plus d'amour pour ces spectacles qui sont de l'opéra ou du cinéma que pour la production qui est la production théâtrale. Et définitivement, c'est la fin. Il y a un metteur en scène roumain assez connu qui a travaillé en France, Lucian Pintili, qui est un peu dans un état de santé un peu problématique. Donc on a fêté les 80 ans. Les 80 ans, et j'ai parlé avec un ami qui écrivait un article sur lui, et je lui ai dit, mais raconte l'histoire de Tchekhov, la femme et la maîtresse. Et parce que Pintilly a fait du cinéma et du théâtre. Et cet ami a écrit, mais ce n'est pas moi qui lui ai donné l'idée, il a écrit la dernière phrase, maintenant mon ami a 80 ans, mais jusqu'à la fin, je vais aimer la femme et pas la maîtresse. Et lui, qui est d'un cynisme absolu, a été entièrement blessé parce que son art du cinéma n'était pas aussi reconnu que son art du théâtre. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser, et je crois qu'on pourra parler avec Laurent, avec Pipo, de ce besoin de respirer ailleurs quand on est de théâtre. C'est aussi une toute dernière parenthèse, c'est que Bergman a voulu faire du théâtre, mais quand il était vraiment, vraiment à la fin, il n'a fait que du cinéma. Donc, il y a quelque chose qui a à voir avec l'origine. Donc, je ne sais pas, Laurent, Pipo, si tu veux répondre. C'est comme à la guerre. Quand j'étais jeune, on m'expliquait comment se déroulaient les guerres. Après vous, messieurs les chevaliers.
Non, mais bien, à propos de la femme de la maîtresse, mais bien, une fois, me venait un souvenir que quand j'étais en Bulgarie, moi j'ai fait de questo buio feroce, j'ai fait un film, que j'ai fait la mise en scène. Je l'ai pensé comme un film, pas comme la mise en scène d'un spectacle. Cioè, signifie qu'il est plus court. Il dure moins, il étudie les détails, et je suis avec les yeux, et c'est mon spectacle de théâtre. Mais on devait jouer à Bucarest, à Budapest, je me comprends.
Budapest, enfin c'est l'Est.
Pour nous, c'est tout. Russie, Roumanie, c'est la même chose.
Ah non, Russie, quand même, c'est trop grand pour la confondre.
À Budapest, et la fille qui devait faire le sous-titrage, je ne sais pas si c'est exagéré, il a vu le film, pour bien apprendre, 27 fois, c'est un peu trop, mais pour bien savoir tout, et que finalement, après 27 fois, je ne sais pas, il avait d'excitation à passer à le spectacle, et finalement, il arrive le spectacle. Et le jour qu'il a vu le spectacle, après, il arrive très timide dans ma loge, et je dis, je ne sais pas, ça veut dire une chose, dis-moi. Mais je vis 27 fois votre film que vous avez fait sur votre spectacle. Et après ce soir, je vais finalement le spectacle. Je dis la vérité, il m'a plus touché le film que le spectacle. Et à ce moment-là, j'ai eu la sensation, pas maîtresse ou
ma femme,
la maîtresse. Je suis complètement divisé, j'ai fait les deux. Et je dis, ah, c'est drôle ça. Mais il m'est resté un prix. Il m'a dit, parce que là, vous me faites voir tous les détails. Et je suis tout en émotion.
Dans le film.
Dans le film. Dans le théâtre, je me suis senti complètement perdu. Je ne savais pas plus quoi regarder. Et alors, tu comprends aussi, parce que des fois, tu cherches à faire des autres choses. Parce que tu peux conduire, des fois, sur tes détails. Qu'au théâtre, mais il dit, mais maintenant, je dis, peut-être, tu dois voir vivre l'expérience du théâtre. Et c'est d'être plus perdu. Et c'est toi que tu vas choisir peut-être ton détail. Alors là, il ouvre un discours plus grand aussi, pourquoi on fait les choses. Pourquoi les langages différents te font vivre un expérience différente avec les choses.
Mais par exemple, pour toi, romancier, le fait de passer au théâtre, c'est un autre type d'écriture ou c'est une écriture en attente des êtres vivants quand on est romancier, on construit des personnages, tandis que le théâtre, on construit des personnages en vue d'une représentation. Est-ce que cette attente du corps vivant, du corps en trois dimensions?
Bonsoir à tous. Je pense en fait que quand on dit respirer ailleurs ou donc s'éloigner du théâtre, c'est vrai que dans mon cas, je verrais deux choses distinctes qui sont toutes les deux aussi importantes, même si on peut penser qu'il y en a une hiérarchiquement moins noble que l'autre, mais je ne crois pas. La première, c'est s'éloigner du théâtre en tant que, en ce qui me concerne, en tant que écriture dramatique. Et la seconde, c'est s'éloigner du milieu théâtral. Et je voudrais dire un mot des deux, parce que je pense que les deux ont leur importance. S'éloigner de l'écriture dramatique, parce que moi je viens de l'écriture dramatique, donc je me suis éloigné le jour où j'ai quitté l'écriture dramatique pour écrire des romans. Mais l'éloignement du théâtre dans l'écriture, c'est, je crois que c'est le désir. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que j'écris loin du plateau, moi. Je ne suis pas un homme de plateau. J'imagine que quand on est un écrivain qui écrit sur le plateau ou à partir du plateau, c'est le plateau qui nourrit les questions et qui nourrit l'écriture. Moi, je fais le jeu inverse. Les deux sont possibles, les deux font des très belles choses. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais moi j'écris loin du plateau et je considère que mon travail consiste à amener des choses au plateau et il faut bien les chercher quelque part. Et donc s'éloigner du théâtre, c'est aller, ça peut être aller dans le monde, chercher des choses qu'on ramène sur un plateau de théâtre parce qu'on pense qu'elles vont avoir une caisse de résonance sur le plateau qui est intéressante, ou aller voyager dans des formes parce qu'on pense que ces formes-là ont quelque chose à tordre dans le théâtre et à tordre de manière intéressante. Moi, j'aime bien ces deux choses-là. L'autre aspect, pour être plus concret, c'est que je pense que je m'éloigne dans l'écriture théâtrale du théâtre pour la question du récit, en fait. Je me suis rendu compte que je n'arrive plus à adhérer, à croire à la... J'ai jamais tellement réussi, d'ailleurs, à la représentation très naturaliste, le quatrième mur, tout ça, c'est pas possible. Et en tant que spectateur, dès que je vois un canapé avec une table basse sur la scène, il y a quelque chose qui me sort du spectacle. Ma manière à moi de nourrir la torsion par rapport à ça, c'est le récit. Comment est-ce que l'écriture théâtrale peut prendre en charge le récit ? Alors, on peut en réellement parler. Moi, je sais que j'ai beaucoup exploré le monologue, j'ai beaucoup exploré aussi le cœur. Et ces deux choses ont en commun d'être des bouts de récit que le théâtre arrive ou n'arrive pas, d'ailleurs, complètement à intégrer. Ça fait un peu sauter les coutures, parfois. Mais c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais chercher dans le roman cette chose-là parce que je pense qu'elle crée une tension, en tout cas, qui, moi, m'intéresse. Et je finis. Mais l'autre éloignement, c'est celui du milieu. Et c'est important d'en parler parce que c'est concrètement... Je reprends ta question. Tu me demandes, est-ce que nourrir la voix... les délais de production et les infortunes de production sont telles pour un auteur vivant que je ne peux malheureusement pas être dans la situation de quelqu'un qui écrit un texte, qui le voit jouer dans l'année ou à la rigueur l'année suivante, et puis qui du coup peut voir si ça marche, si ça marche pas, avancer dans sa recherche. Les délais sont plus grands, sont plus aléatoires, et c'est là où on arrive sur la question du désir et de l'attente. Ça n'est fait que de ça. On est comme des comédiens, on attend que le téléphone sonne, et on ne peut pas créer ce désir-là. Il y a une curiosité où il n'y en a pas, il y a des moments de la vie où on la sent autour de vous, il y a des moments de la vie où on la sent moins, et moi je me suis dit à un moment donné que je ne pouvais pas être dans cette attente-là, parce qu'elle me bloquait d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que attendre que d'autres s'emparent de mon objet pour voir si ça marche, je suis enlisé moi pendant ce temps-là dans l'écriture. Donc finalement explorer la poésie, les nouvelles, les romans, c'est une manière de continuer à avancer dans ma recherche. Et puis il y a aussi une question économique, puisque tu parlais de ça par rapport au cinéma et tout ça. C'est vrai que la dépendance pour un auteur du milieu théâtral, c'est-à-dire du désir des metteurs en scène, de la programmation, est quelque chose dont moi je voulais m'affranchir le plus possible.
Par rapport à ce que tu dis, moi j'étais très frappé quand j'ai pas cité le nom de Brooke, mais Brooke a voulu faire aussi du cinéma, et un jour il me racontait que un grand metteur en scène, Heston, Charles Heston, oui, il a attendu 7 ans pour faire un film. Et il dit, moi, artistiquement, il m'est impossible d'attendre 7 ans et de concevoir le chef-d'œuvre durant 7 ans. Et ce que tu dis, c'est que le rapport entre le rythme personnel de l'artiste de production et le rythme de l'art de l'accueil, c'est-à-dire que le cinéma, etc., sont différents, et parfois on fait un choix en fonction de cette rapidité. Et dans l'entretien là, que nous avons publié pour Chéreau, Chéreau expliquait, moi j'avais toute une théorie beaucoup plus élégante sur la lecture chez Chéreau, sur le théâtre en attente, etc. Et il dit, oui, c'est vrai, mais en même temps, je parle maintenant avec toi, si nous mettons d'accord pour faire une lecture, en 2 mois, on peut l'avoir sur un plateau. Si j'ai besoin d'un projet de théâtre, je le fais dans 2 ans. Donc, c'est peut-être aussi intéressant d'introduire ces paramètres dont tu parles.
C'est particulièrement vrai pour les auteurs. Moi, je sais que c'est une chose que, depuis 2 ans, je développe énormément, les lectures, soit quand je les fais moi-même, soit faites par des comédiens et des comédiennes. C'est une grande joie. J'ai toujours cru, je ne le fais pas par dépit, j'ai toujours cru profondément à la lecture, la forme de la lecture, tout simplement parce qu'en tant que spectateur, j'adore ça. Donc, mais c'est vrai aussi que je m'en rends compte, c'est une manière beaucoup plus facile, plus simple, de faire qu'à un moment donné, un auteur rencontre un comédien, par exemple. Si je devais attendre pour rencontrer tel comédien dont je sens que j'ai envie qu'il y ait une rencontre sur mon texte, sur mon écriture, parce que voilà, si je devais attendre qu'il y ait peut-être un jour une production complète, une mise en scène dans un théâtre, ça serait de l'ordre du rêve. La lecture permet de s'approcher, de se renifler et puis de faire une chose qui est une vraie chose, qui est une vraie rencontre, et c'est vrai que ça a cette souplesse là.
Et Pippo, tu m'expliquais tout à l'heure que tu fais une création importante presque tous les 2 ans, et que pendant ces 2 ans tu te livres à des expériences, comme une constellation, comme ça, des différentes expériences qui te mènent en quelque sorte vers la production. Donc, d'une certaine manière,
Oui, d'une certaine manière, à la fin, moi, je fais un spectacle chaque 2 années ou plus. Il y a des metteurs en scène qui font, ce soir, on va voir Bob Wilson. Je ne vais pas parler mal des concurrents, mais il fait un spectacle chaque mois. 2, mais en même temps, plus. Il fait seulement, bon, il a fait des choses géniales. Mais en même temps, moi, je ne pourrais jamais faire une chose comme ça. Et je fais beaucoup de choses, parce que je fais de la musique, je fais des concerts, maintenant je fais une exposition, je fais du cinéma, je fais l'auteur de cinéma. Qu'est-ce qui me manque? La mode? Non. Il m'a téléphoné hier, un styliste de mode, je veux que je fasse un événement à Milan, pour la mode à Milan et à Moscou. Comment s'appelle lui? De la bourse, c'est très connu, j'ai l'Alzheimer. J'ai dit au début, j'ai dit non, et après j'ai dit oui. Parce que je pensais que la thématique homosexuelle à Moscou peut être des choses intéressantes. Et jamais tu penses à la question économique. Après, bon, je pense que lui va donner 1000 fois, 10 fois que le théâtre. Mais ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça. Parce que tout le temps, les choses qui t'arrivent sont des choses qui te donnent des possibilités de comprendre des choses dans toi-même. Alors, tu ne peux pas faire des choses que tu ne sens pas. Mais tu fais des choses parce qu'à la fin... Par exemple, j'ai fait l'opéra, maintenant j'ai fait aussi combien de choses? Don Giovanni de Mozart. Bon, j'ai beaucoup de problèmes avec cet opéra parce que j'ai fait un autre opéra qui c'est la Cavalleria Rusticana, qui je l'ai fait l'an dernier à Naples. Et au début, j'ai pensé, non, il y a l'orchestre, il y a beaucoup de règles, c'est pas comme moi je fais mon spectacle. Mais à la fin, il y a quelque chose que si tu as dedans toi, tu as. Dans l'estomac, je dis, pas dans la tête. Tu sais que tu peux faire des choses. Là, dans l'estomac, il y a une cohérence. Alors pourquoi pas? Moi, je ne crois pas. Pourquoi pas? Ce sont toutes des expériences qui, à la face, tu mets ta vie. Dans la Cavalleria Rusticana, pas qu'il y a Bobo, qui était absolument lui seul sur la scène. Il y a 3 scènes. Moi, je ne savais pas comment résolver 3 situations de Mascagni parce que je l'ai trouvé. Totalement, je n'aimais pas ces 3 musiques. Et m'ont dit, tu ne peux pas couper parce que l'opéra, il y a des règles, non, pour dire. Et j'ai dit, moi, je l'avais coupé. Après, je dis que Mascagni aussi, lui-même, il n'aimait pas ces morceaux. Tu ne peux pas, parce qu'il y a les abonnements qui vont payer 160 €. Et ils attendent ce moment. Si tu les lèves, ils te vont détruire, m'avait dit le Saint-Carlo. Ok, je les garde. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai eu une idée. La procession, j'ai vu toutes les processions. Et j'ai dit, la procession, tout le fait la même, procession, le figurant, comme ça. Tout, aussi les grands metteurs en scène, aussi Visconti, sont un peu tous la même. Non? Et là, j'ai eu une idée, Bobo, qu'il était venu parce que sa soeur ne voulait pas tenir, garder avec elle. Je dis, Bobo, il peut rester chez vous? Non, non. Bon, il vient avec moi. Il était venu comme ça seulement pour m'accompagner. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait, Bipo, avec le grand chanteur, c'est de la lyrique. Non, pour raconter une histoire, que, pourquoi tu échappes? Et à la fin, j'ai une idée. Et c'est la procession. Il est fait seulement Bobo, avec un petit croix. J'ai dit, Bobo, lui, il attendait les moments, parce qu'il ne pouvait plus de faire rien. Parce que Bobo, tu l'amènes avec le pape, il devient, il fait un discours comme le pape, il n'a aucune timidesse. Bon, on avance, on fait. Alors, j'ai dit, bon, vous mettre en vêtement de Bobo. Et bon, à la fin, la cavalière rusticana, la procession, il y a seulement Bobo avec la croix. Et derrière, il y a 110 personnes qui chantent derrière pour lui. Et à raison, il y a des moments que je ne pouvais pas couper. Bobo, il arrive avec les fleurs. Moi, je suis à la salle, je suis dedans, je jette les fleurs, je fais chanter tout le public. Déjà que vous la connaissez, on chante. L'arancholesa, je dirige tout le public. Déjà que les gens ils m'ont dit que le public il la connaît, alors si vous la connaissez, vous la chantez. Alors tous les gens se trouvent à chanter comme c'est un peu des idiots. Non, parce que. Et il y a les scènes très connues du vent, des Béviens, que je ne pouvais plus de Béviens. Et bon, il y a Bobo, il arrive avec son petit table, avec son chapeau sicilien, il prend du vin, c'est pas du vin, c'est de l'orange, parce que je sais pas, il y a en bas, j'ai beaucoup d'argent, mais on ne peut pas acheter le vin, je ne sais pas pourquoi. Il a besoin de permis. Je dis, on a payé 1 000 000 pour déconfigurer des chanteurs qui arrivent à Tokyo, vous ne pouvez pas acheter un verre de vin rouge. Ça, c'est l'opéra. Non, c'est pas possible, parce qu'on doit demander pour voir le vin rouge. Non, alors on doit avoir des choses roses, qu'il est de la soupe d'orange. Et tu vois, Bobo, qui mettent les choses d'orange avec le chapeau sicilien, il boit le vin comme ça, après il arrive au nid, c'est une des plus grands, il donne, lui il dit bon, tu bois un peu, et il boit, et lui il chante, et tu vois Bobo qui est un peu s'ennuie, comme ça, non, sur la chaise, il y a 2000 personnes sans cas, parce que c'était plein, et là, Zeit, dans le journal allemand, il a dit, on n'a jamais vu la cavalerie rusticana avec une seule figure protagoniste. Alors, pour te dire, moi j'ai fait beaucoup de choses parce, jusqu'à maintenant, parce que chaque fois, tu retrouves quelque chose qui t'appartient. Mais tu dois être plutôt gros dans l'estomac. Moi, je suis gros. C'est pas mal, moi, tu vois, c'est
une belle. Tu avais maigri, toi, moi, j'ai pas maigri.
Moi, je me... Mais ça, ils te permettent d'entrer dans des lieux qui sont des lieux pas simples, mais sont des actes un peu de révolution. Moi, je vais accepter de faire une chose dans la mode, pourquoi pas, mais je ne suis pas capable de faire une chose. Alors, le théâtre, l'histoire que moi, j'ai travaillé beaucoup, l'expérience de le training, de le travail de l'acteur, il a, pour moi, le théâtre, c'est comme la mère qui t'a donné la force. Parce que moi, je fais des concerts, et tu te trouves dans des situations qui disait, alors, l'autre fois j'étais à New York, j'ai fait un hommage à Lou Reed, je dis, bon, j'ai fait un texte, j'avais, chez Laurie Anderson, j'ai fait un texte. Après, je dis, qu'est-ce qu'il y a avant de moi? Il y avait Bono de Udo. Il y avait des gens hallucinants, des chanteurs qui sont des mythes. Non, lui le gros, il s'appelle Anthony, je dis, oh là là, maintenant, people are born, merde. Mais bon, je prends le microphone, je dis, vous va jouer la musique, parce qu'ici, avec Bono, avec tous ces musiciens, et tu reprends ton microphone, tu reprends ton théâtre, ton façon de dire les paroles. Bon, à la fin, il y avait le silence. Bon, ça va, les Américains, ils sont des fois. Mais parce que tu sens que tu viens dans une famille, qui c'est pas la famille, que ton technique, qui c'est le théâtre. Parce que moi, j'ai étudié la formation de Grotowski, de l'audit théâtre, et après je l'ai éloigné parce que je n'aime pas trop le style, mais je n'aime pas le style de théâtre. Moi, je n'aime pas les familles de théâtre. Je les trouve annoyantes. Moi, je préfère échapper dans les familles. C'est pour ça que je les trouve annoyantes, les familles. Parce que tu vas au théâtre, ils sont tous des amateurs de théâtre. Moi, je n'aime pas les amateurs des choses. Alors, ça que je trouve qui m'annouille du théâtre, qu'il est fait pour des amateurs. Les gens qui vont, tu vois, tous les gens, excuse-moi, sont tous les gens de la même couleur, de la même culture. Alors, tu sortes dehors et tu vois la vie plus théâtre, la vie dehors. Tu vas dans mon pays, il y a beaucoup plus de surréalisme, de vérité, de mensonges que dans le théâtre. Et ça qu'il me manque. Après, il me manque tout le temps. Oh, parole ou image, parole ou image, parole, basta, je vais rester seul, comme dans la montagne. Alors, mon dernier spectacle, pour ça que je dis que Georges, il ne me cite pas dans son livre, mais il a tout le temps Peter Brook. Il est comme ça, ils sont vraiment... Il adore, puis de la relation, je crois, homosexuelle, pas reconnaissable. Mais à la même temps, on est une grande syntonie. Parce que, par exemple, dans mon dernier spectacle, à un moment, c'est pas moi que je l'écris, il a écrit des gens écrivant des théâtres, il y a la scène vide. Il y a des moments que je ne veux plus monter sur les plateaux. Tu te reprends, je dis des textes, des théâtres, moi je ne sais pas, tu restes dehors. Tu te veux reprendre la solitude de regarder la montagne, de regarder la mer, de ne pas comprendre. Je ne peux plus du théâtre me mettre dans la dimension de l'intelligence du public de théâtre. Alors, c'est vrai que des fois, échapper, il fait du bien. Il te prend de l'air. Mais c'est vrai aussi qu'à la fin, le monde du cinéma, après que c'est vrai que moi j'étais à Noisy-le-Grand, non, à Sergi Pontoise, avec le théâtre plein de monde, et j'étais adormé, hier soir je mangeais, qui ressemblait à une chose russe après le spectacle, et j'étais à dormir à l'Ibis, dans une chambre qui était grande comme la moitié. Encore que les communistes, mon organisateur, le blanc, il est resté. Bon, je ne pouvais pas ni ouvrir la valise. Et tu vas au théâtre plein de monde, tout le monde en pied. Tu dis, bon, c'est dommage que j'ai fait double théâtre. Tu peux imaginer que c'est fait du théâtre sans rien. Et tu vas à l'Ibis. Avec, tu te traites comme un. Après, j'étais à Lausanne à présenter Henri, le film que j'ai joué avec Yolande Moreau. Première classe, train, j'arrive en voiture, il m'amène un hôtel 5 étoiles, la vue sur le lac, la piscine au chaud, au froid. Et après, il dit, bonjour, qu'est-ce que vous mangez, comme ça, oui. Après, je fais l'acteur, là. Je reviens, après, il m'a dit, tu veux rester 2 jours à Lausanne, ou un jour seul? Non, je reste 1 jour. Après, j'ai vu l'hôtel, je dis, merde, pourquoi je suis resté à l'Ibis? Après, tu retournes à ton théâtre, à l'Ibis, tu manges dans une table qui ressemble vraiment aux premiers communistes, on mange dans un plat, le riz tout chaud, et tu dis, bon, c'est un peu mieux le cinéma, non, il te traite un peu mieux. Mais à part ça, et ce n'est pas important, il y a le risque du monde du cinéma que si tu fais tout le temps des tapis rouges, tu es tout le temps dans des hôtels à 5 étoiles, il te devient la tête à 5 étoiles. Et là, c'est notre risque que moi je trouve qu'il y a dans le cinéma, qu'à un moment, tu ne crois plus à rien. Alors, tu retournes à ta famille du théâtre qu'à la fin, tu la préfères, à l'Ibis. Mais tu dois être bien aussi quand tu es dans un tapis rouge. Parce que sinon, cet été, j'étais avec 2 films à Cannes, avec le film de Valéria Bruni-Tedeschi, que je ne suis pas allé, avec Yolande Moreau. Mais je sais que quand tu arrives au tapis rouge, tu marches bien sur le tapis rouge, parce que tu connais le théâtre oriental. C'est bien de traverser des zones, mais après, tu retournes à ton stomac. Et pour moi, mon stomac, c'est le théâtre.
Et justement, peut-être, tous les deux, quand vous revenez, est-ce que il vous semble que quelque chose d'important a été découvert grâce à cette expérience? Que quand tu reviens d'une longue période d'écriture solitaire du roman, tu intègres de la même manière le théâtre ou les choses restent séparées?
Non, ben le seul intérêt d'aller et venir, c'est d'espérer et d'essayer de faire en sorte qu'à chaque fois on amène des choses, que ce soit un peu les valses communicantes. Moi, je découvre au fur et à mesure que j'avance que finalement, au début, je croyais que que j'avais construit quelque chose et que le principe du jeu, ça allait être d'être dans l'alternance. Théâtre, roman, les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, la forme n'est pas la même, on apprend des choses dans les deux, les difficultés sont différentes, et je pensais que ça me faisait du bien, et ça m'a fait du bien d'être dans cette espèce d'alternance régulière, parce que chaque année je publiais, pas chaque année un roman, mais j'étais vraiment tout le temps dans deux chantiers. Et au fur et à mesure que le temps passe, je pense qu'en fait c'est un peu différent. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est la zone bâtarde entre les deux, et que au fond voilà, il va se dessiner au fur et à mesure que j'avance un espèce de continent, un territoire dans lequel on n'est plus tout à fait dans le roman parce qu'il y a trop d'oralité pour qu'on soit dans le roman, et du côté du théâtre, avec la question du récit que je disais tout à l'heure, voilà, c'est cette zone intermédiaire qui m'intéresse de plus en plus et que j'essaye d'expérimenter dans le dernier roman. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du chant et de la voix dans les romans qui vient du théâtre. Parce que là on parle de pourquoi est-ce que on s'éloigne du théâtre et donc tout ce qu'on fuit du théâtre, mais il y a aussi le fait que quand moi j'écris du roman, je pense que je l'écris avec le théâtre que j'ai en moi, dans mon ventre aussi, et je sais ce que le théâtre m'a permis de modifier dans le roman. Il y a quelque chose, effectivement, je pense que j'écris depuis toujours pour la voix. Et que ça, c'est pas obligatoire quand on écrit des romans d'écrire pour la voix. On peut écrire pour l'œil, on peut écrire pour la pensée. Moi, j'écris pour la voix dans le roman. Ça vient directement de ma formation. Je considère, puisqu'on parlait d'appartenance, même si c'est pas naturel pour les gens parce que je suis plus connu du côté du roman, mais moi, je considère que je viens du théâtre. C'est évident parce que les gens qui m'ont formé sont des gens de théâtre, et les spectacles qui m'ont formé, qui ont décidé de l'écriture, c'était des spectacles de théâtre. Donc j'ai amené cette question de la voix, et une autre question à laquelle je tiens beaucoup et que je définis, mais qu'en fait j'ai pas encore totalement fini d'explorer, je trouve que le théâtre est allé beaucoup plus loin que le roman, en tout cas qu'il est bon de rappeler au roman ce que le théâtre a fait par rapport à, je vais dire un gros mot, mais par rapport au brechtisme. Il y a l'idée à laquelle on est habitué maintenant au théâtre, qu'on peut à la fois montrer et laisser se développer une histoire, mais qu'en même temps, on demande au spectateur d'être non pas dans l'adhésion et le pathos de cela, mais ou la réflexion, ou simplement la distance. La fameuse phrase de Brecht disant qu'il aimerait que les spectateurs de théâtre soient dans un théâtre comme dans un stade de foot, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un stade de foot, on peut hurler, crier, serrer le coude de son voisin, et en même temps, à aucun moment, quelqu'un qui est dans un stade de foot n'oublie qu'il est dans un stade de foot. Il le sait à tous les moments. Ça n'empêche pas de vivre l'émotion du match, mais simplement, il n'est pas dans l'aliénation de sa raison, de son esprit. Cette chose-là, au théâtre, elle est devenue évidente, parce que c'est vrai que le Brecht a fait une rupture, et puis tous les suivants, tu parlais de Strehler, tu parlais de... J'essaie de la garder en tête pour l'écriture d'un roman. Et pourtant, j'écris très fortement pour les personnages. Je veux une écriture des personnages, une écriture de l'émotion. Mais c'est vrai que si je peux essayer de trouver des moyens de faire en sorte que, bien sûr, il y a des situations romanesques, il y a une histoire qui se déroule, il va y avoir un âne, un paysage ensoleillé, des tas de choses. On est dans le sud de l'Italie ou ailleurs. Je suis mes personnages, j'essaie de leur donner vie, mais en même temps, dès que je peux, s'il peut y avoir un décalage par rapport, encore une fois, au naturalisme, que tout d'un coup deux personnages qui sont à deux endroits différents dans l'histoire que j'ai écrite et qui ne se sont pas encore rencontrés se mettent à dialoguer dans un entremêlement des voix, moi j'aime ça d'abord parce que ça m'intéresse de voir comment est-ce que ça peut se construire, et ensuite parce que ça dessine de manière implicite, j'ai pas besoin que le lecteur le dise comme ça, mais ça dessine ce que j'appelle du lyrisme brechtien, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette chose-là n'est pas possible dans le monde normal. Deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vivent dans deux endroits différents ne peuvent pas se parler. Et dans le roman, si. Et cette voix-là, ce chant qui monte à plusieurs voix, m'intéresse parce qu'elle souligne que c'est moi derrière qui les mêle, et que donc il y a un... Donc ça, c'est pour raconter un peu ce que le théâtre apporte aussi. Si c'était uniquement fuir le théâtre, ce ne serait pas intéressant. Ce qui est bien, c'est l'avion, c'est vrai. C'est d'être au milieu des deux et d'essayer de définir une zone qui sera la sienne. Il y a une chose qui m'a traversé l'esprit, que je voudrais dire avant de l'oublier, c'est que être... Je pense que quand on est dans un lieu, dans un univers, le théâtre ou le cinéma, on est dans une logique de construction. Et c'est très noble, hein. Creuser son sillon, construire quelque chose. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une logique de construction dans mon travail. J'ai l'impression d'être dans une logique d'exploration des différentes terres que je vois possibles dans l'écriture. Voilà. Il y a quand même une chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans l'exploration et la construction, c'est la question du pouvoir qui est intéressante aussi. C'est-à-dire que qui ne construit pas ou qui ne reste pas au même endroit ne peut pas être dans une logique de pouvoir par rapport au... Et je ne critique pas, hein. Il faut que des gens s'emparent des outils et assument une position de pouvoir. Moi, c'est quelque chose que je fuis plutôt. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je ne peux pas rester dans l'édition. Parce que si je faisais toute ma vie dans le roman et dans l'édition, à un moment donné, se poserait la question, est-ce que tu veux pas être directeur de collection? Est-ce que tu veux pas, maintenant que tu as un certain âge, nous aider à découvrir des nouveaux auteurs? Être dramaturge dans un théâtre, postuler, pas directeur, mais c'est-à-dire construire quelque chose. Et je suis plutôt dans la fuite de ça, en fait.
Et puis, tu as fait ces derniers temps, là, tu as travaillé énormément sur c'est une autre manière de raconter le monde grâce au film. C'est que on nous sommes rencontrés souvent avec ton téléphone portable et tu as fait ce film qui nous a émus tous. Donc ce film-là te permettait de regarder le monde autrement que dans le théâtre?
Oui, parce qu'il te permet de faire des choses. Par exemple, après Amore et Carne, tu as vu Amore et Carne, oui. Il est sorti. È sorti in Italia, oggi presente al Festival de Locarno, si film Sangue, che gli ha praticamente, j'ai pris tout le voyage de ma mère quand elle est morte, il y a un petit fragment aussi dans Orchidée, et seulement avec un petit caméra, je pouvais suivre ma mère jusqu'à la fin. Allora, là, il y avait seulement, cioè, il devient inévitable. Ma mère, j'ai tout le temps, je pensais qu'il avait. Il me disait, Pippo, ma chi là qui t'a enseigné à faire l'acteur? Moi, je dis, c'est toi? Il m'a enseigné, moi, non, je ne suis pas une actrice. Mais nous, j'étais maître d'école, non? Alors, il avait la religion, il me parlait tout le temps des morales, qu'à la fin, c'était pas une religion, mais c'était pas une religion. Il parlait des fantômes de la religion. On discutait, mais on est devenus très amis. À un certain moment, dans Amore et Carne, il y a comme la sensation que ma mère était très bien. Il ressent déjà que j'imagine qu'il va mourir. En fait, après, en 2 mois, elle est partie. À ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et je ne savais pas. Je ne voulais pas faire un film. Je ne pensais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais ces moyens-là, je dis, je la vais prendre. Alors, j'ai mis ce téléphone entre moi et elle et j'ai commencé à suivre ses voyages. Et ces paroles qui passaient à parler de la Madone, il me faisait voir dans une photo, ma mère était totalement surréale, non? Il me faisait voir des photos qu'il y avait la Madone pour me faire quoi? Tu vois, la Madone, elle existe, elle a fait des photos qu'il y a la Madone. Et effectivement, il se voyait la Madone. Non, je dis, bon, je sais pas. Il se voyait une chose, il ressemblait effectivement à la Madone. Je sais pas ce qu'il en fait à Maggiugore, mais ma mère était capable de convaincre aussi. Et ma mère, elle avait des problèmes avec les communistes parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et seulement pour ça. Alors, il m'a raconté que les communistes sont athées. Il disait, ah non, moi, j'aime pas les communistes, parce qu'il se souvenait, bon, qu'il les disait moches quand il était au pape après la guerre. Je dis, maman, ils sont plus ces communistes-là. Et dans le même temps, je fais la connaissance avec un leader historique de la Brigate Rosse qui s'appelle Giovanni Senzani, qui s'était considéré dans la mémoire italienne le plus terrible des terroristes. Parce que lui, il a tué, il était responsable, il a tué le frère de Pecci, qu'il a fait tuer le nom des terroristes. Il a commencé, les Brigate Rosse, ils sont finis quand de Pecci, il a commencé à dire tous les noms. Parce qu'après, il avait l'histoire, c'est complexe, mon pays. Et lui, il était considéré le monstre dans la mémoire italienne. Et bon, je ne sais pas, il est venu, il a vu le récit des gens, il a commencé à entrer. Dans mon parcours, on est devenu amis, j'ai commencé à filmer. Lui, il avait sa femme, Anna, il était contraire à la lutte armée, mais il était avec lui jusqu'à la fin. Sa mère, sa femme, il avait un cancer. Et en même temps que ma mère il était en train de mourir, sa femme il était aussi en train de mourir. Alors, moi, j'ai filmé Giovanni. Giovanni, il a raconté des choses qu'il n'a jamais dit dans sa vie, jamais. Pour la première fois, il raconte le moment qu'il a tué, que lui a fait une photo qui est devenue historique. C'est voir lui qui le tue, oui. C'est voir la pistole. Et bon, il y a un film qui parle de la mort, il y a un film qui parle de l'amour, qui parle de il fait voir la mort en direct. Je ne pourrais pas faire, seulement avec une caméra, je pourrais reprendre ces histoires qui pour moi sont des histoires incroyables que la vie m'a données, la perte de ma mère, et les rencontres avec quelqu'un comme lui. Et après, il est drôle que les protagonistes de ces films, c'est ma mère et Giovanni Senzani. Cioè, je l'ai mis, et qui détestait les communistes, je l'ai mis avec les plus durs de les Brigates Rosses. Ce sont les deux protagonistes. Aussi, il y a un jeu totalement absurde. Et là, tu le peux faire seulement avec le cinéma. Je ne peux pas, Giovanni, mettre au théâtre, ma mère est morte. Cioè, il devient des choses inévitables. Cioè, parce que l'artiste, il est quelqu'un qui cherche... Tu cherches un peu de regarder le monde. Cioè, à la fin, l'artiste, c'est une parole plus complète que les gens du théâtre. Le faire le théâtre, pour moi, il est un peu trop limité. Il parle de fantômes qui n'existent plus. Il parle de Brecht, mais il n'y a pas Brecht. Il parle de Pasolini, mais il n'y a pas Pasolini. Il y a tout le temps, je ne vais pas dire de l'Odéon, parce que bon, non, je ne suis jamais, je suis rond-point. Hein. Ça me arrive, un peu jalouse que je suis venu ici. Mais des fois, le théâtre est devenu aussi notre gage. Moi, j'ai trouvé une chanson très beau de Dandré qui dit « La prison du désert ». Aussi, dans le désert, tu es en prison.
La prison des...
du désert. Ah, parce que tu ne sais pas où aller. Pour moi, le cinéma, des fois, c'est la prison du désert. Et vite, le théâtre, c'est la prison de l'histoire du théâtre. Oh, je ne suis pas cultivé comme eux. Ça, c'est un peu que tu te sens au théâtre. Je n'ai pas compris comme à l'école. Non? Et des fois, je crois que les artistes, ils alimentent un peu trop. Les gens du théâtre, ils alimentent beaucoup ces façons d'être un peu dehors du monde. Dehors de la vraie théâtralisation du monde. Cioè, quand tu rencontres une personne qui est restée en prison 25 ans, comme Giovanni Senzani, il y a tout dans son narration. Il y a le théâtre, il y a la vie, il y a la politique, il y a l'amour, il y a la mort. Il y a tout cet élément qui, auprès au théâtre, je ne le trouve plus. Et c'est pour ça que je crois que le théâtre, il est resté un lieu vieux. Trop vieux. Enfin, mais... À le même temps, pour retourner à faire un peu de positif, quand mon film il a créé un débat hallucinant parce qu'il y avait un leader de les Brigates Rosses, et alors il a écrit des choses de politique, il a eu deux inquisitions parlementaires, mon film, parce que la RAI, elle a mis de l'argent pour financer un film avec un terroriste. Moi, je dis rien parce que je savais que la RAI avait mis 18 000 euros. Pour un long métrage, c'est rien. En plus, c'est le seul long métrage qui était à Locarno. Pour faire la fête finale de la Grande Bellezza, mais pas le film, il a payé 4 fois plus, seulement pour la fête. Alors, moi, je dis, ça va, on ne dit rien. Après, il a eu beaucoup, beaucoup de polémiques. Quand tu remets au théâtre, tu parles de Giovanni Senzani, et tu, j'étais à l'Odéon, non, l'Odéon, excuse-moi, l'Odéon. Comment s'appelle le théâtre, le grand théâtre italien qui a beaucoup, qui a fait, j'ai un peu d'Alzheimer.
Piccolo. Mais,
non, j'étais avant Piccolo. Non, non, Vicenza. Oui. L'Olympe. Non, il y avait un public. J'ai fait Édipe en concert. Et dans ces concerts, je raconte encore plus de Giovanni. Je parle de la folie, du catholicisme, de les Brigades Rouges. Je dis la vérité que dans le théâtre, quand tu mets certains thèmes, comme une personne qui a tué des autres pour un idéal révolutionnaire, tu vois que l'agent du théâtre, au fond, qu'il a envie Médéa, qu'il a envie Édipe, qu'il en connaît. Dans le théâtre, dans la tragédie, dans l'origine du théâtre, il y a tous les grands thèmes de l'être humain. L'être humain qu'il est, qui va tuer son fils, qui va tuer sa mère, qui est pédophile. Il est dépassé le scandale quand dans le cinéma il y a des business derrière, trop de business. Alors les financiers ne veulent pas dans ce moment parler de les Brigades Rouges. Pourquoi? Dans ce moment critique, c'est dangereux dire Brigate Rosse. Après, si tu ouvres les Brigate Rosse, lui, il a tué lui, mais de la Chiesa qui l'a tué, tu sont les Brigate Rosse, il était tué dans la mafia qu'il était ami d'Andreotti. Alléluia. Et en plus, nous, on a Bologna, Ustica, beaucoup de strages qu'on ne sait rien, on ne dit pas qui il est. Alors, si tu ouvres en couverture, tu commences à ouvrir trop. C'est mieux de fermer. Parce qu'en plus, il y a les business qui font pouvoir produire le cinéma. Et alors, là, quand tu rêves au théâtre, tu dis, bon, mais au théâtre, on peut encore réfléchir sur l'être humain qu'il est un killer, qu'il est un pédophile, qu'il va tuer sa mère, qu'il va tuer son fils, parce que le vrai, l'origine vraie du théâtre, il va avoir l'être humain dans son être, un ange, un dieu, un diable. Alors là, tu retournes au théâtre. Mais évidemment, moi je pense que pour retrouver l'ancien du théâtre, on doit complètement changer le langage du théâtre. Parce que sinon, le théâtre, il est malade. Les acteurs, les premiers acteurs, les rôles, les personnages. Il est malade d'un mensonge que nous, on accepte. Nous, on se met sur une chaise, ça va, c'est un mensonge. Si tu changes le mensonge, qu'est-ce qui passe? Au Piccolo de Milan, mon dernier spectacle commence, que moi je commence au début à changer. Je fais moi l'annonce, tu sais, l'Italie dit « Buonasera ». E benvenuti al teatro, dice, vi preghiamo di spegnere i telefoni cellulari, vi preghiamo di non fare foto, a nome del teatro vi auguriamo una piacevole serata, buon divertimento. E dalle dernier spettacle c'est moi che j'ai fait déjà la voix de la madame qui fait la maschera. E a un momento le gens c'est normal, il dit, e poi dit, ma c'est pas assez del bon nom, il est déjà là. E tu commences a détruire dans des bouts. E là tu retrouves Brecht, mais parce que tu le retrouves Brecht, tu retrouves la révolution, c'est tu changes, tu détruis totalement. Alors tu retrouves l'essence rituelle du théâtre, sacré du théâtre, mais pas pour moi à refaire les modèles. Oh, quand j'étais en Amérique, ici les Américains, ils font tout le temps comme ça. Ciao, je viens faire un peu de yoga. Ciao, moi je suis. Moi je viens faire méditation. Moi je suis bouddhiste, mais dans un bouddhiste, des actions, pas les bouddhistes, que tu restes dans la montagne comme ça. Ça, c'est pas de bouddhisme. Mais moi, je viens faire méditation transcendantale. Tu viens, Pipo, avec nous. Combien il coûte? C'est gratuit, non? 120 euros. Non, pourquoi 120 euros, moi. Mais tous les Américains, ils font, salut, j'ai fait méditation transcendantale. Moi, j'ai fait faire un peu de tai chi. Alors, il y a le risque que nous, on va répéter le rythme avec aussi la nostalgie du rite. Moi, alors, je préfère faire un rituel de théâtre avec le iPhone. L'iPhone, il existe. Alors, dans mon nouveau spectacle, il y a iPhone. Il existe. Je ne peux pas échapper de l'iPhone. Mais retrouver en dimension spirituelle que le théâtre, il a encore. C'est pour ça qu'on retourne. Parce que dans le théâtre, il y a la ritualisation. Il y a des grands questionnements sur pourquoi on est là, pourquoi on va mourir, pourquoi on perd les personnes qu'on aime, pourquoi on a les gens qui prennent le pouvoir, ils deviennent idiots. Tout, on en prend, on a un peu de pouvoir, on devient idiot. Et là, je crois que le théâtre, tu vas retourner. Cioè, on retourne à cet âme, non? Je ne sais pas. Hein?
Mais est-ce que vous avez des questions à poser? Que ça soit.
Vous l'achetez les livres, en tout. Que tu mets dans la perche et toi.
Mais j'étais en Pologne avant-hier, là, et en Pologne, ils ont gardé encore le vieux terme que Antoine Vitez aimait. C'est pas marqué publicité, ils interrompent les films et c'est marqué réclame.
Un peu pas de réclame.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y.
Non, je voulais juste dire, j'ai été très attentive à tout ce que vous avez dit sur l'écriture, le roman, etc. Parce que dans le monde des malvoyants et des non-voyants, en ce moment, on nous souffle de plus en plus le braille. Et c'est une vraie catastrophe, vous voyez. Parce que il y a des tas de choses qu'on ne peut pas arriver à avoir. Et c'est difficile, quoi. Là, tout, enfin, bon, vous avez des théâtres formidables, comme, entre autres, il y en a bien d'autres. Et la colline et le théâtre, la maison de la culture de Bobigny, qui permettent de toucher les choses, ben, qui, vous voyez, qui montrent très bien. Mais, je l'appelle à expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire quand même. On manque d'écriture, quoi. On nous retient l'écriture et c'est dur.
Moi, je voulais. Mais,
juste pour répondre à la dame, j'ai. Il y a beaucoup, alors du côté du roman, du côté du théâtre, c'est vrai que du côté du roman, il y a maintenant beaucoup de livres audio. Et c'est vrai que cette chose-là, il faut continuer à militer pour que les éditeurs qui le font de plus en plus et de mieux en mieux, mais pour que le temps de délai réduise. C'est-à-dire que, effectivement, entre le moment où un roman sort en nouveauté, en édition papier, et le moment où il va éventuellement sortir en livre audio, il se passe souvent un an et demi. ces délais-là, ils peuvent se réduire parce qu'il n'y a pas un enjeu économique, astronomique. Et c'est vrai que ça permet aux malvoyants d'être nos contemporains et de suivre l'aventure. Donc moi, ça, c'est quelque chose pour lequel je milite. On a fait le prix de Lire dans le noir il y a 15 jours. Et c'est bien. Alors c'est vrai que l'équivalent au théâtre, je connais moins les leviers sur lesquels on pourrait un peu axer, mais ouais.
Bon, pour revenir un peu, il y a donc les grands mouvements, donc par exemple théâtre-cinéma, roman-théâtre, mais il y a aussi des voyages un tout petit peu atypiques, un peu exceptionnels. Donc tu as fait un opéra que j'ai vu, tu fais une exposition de photos, une exposition de peinture, pardon, de peinture. Quelle est la part de l'accident et quelle est la part du désir de vous engager dans ces voies qui sont un tout petit peu, un peu plus éloignées?
Alors, c'est un des très beaux cadeaux que offre cette vie d'écriture pour l'instant, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles on se donne rendez-vous. Moi, quand j'ai écrit du théâtre, je savais qu'un jour, j'avais envie d'essayer d'écrire un roman. Je ne savais pas si j'y arriverais, si ce serait bien, pas bien, ça c'est d'autres questions. Mais je m'étais donné rendez-vous avec l'écriture romanesque. De la même manière, plus tard, je m'étais dit, il faut essayer des nouvelles, parce que j'avais envie de voir ce que produisait la forme brève. La poésie est un rendez-vous avec lequel j'ai pris rendez-vous avec la poésie. Après, ça marchera pas, c'est un autre problème. Et puis, il y a des tas d'autres choses avec lesquelles on n'a pas rendez-vous parce qu'on n'y a même pas pensé. Et c'est là où c'est un très beau cadeau. Il y a des choses qui vous tombent dessus par votre travail. C'est-à-dire que des gens lisent ou suivent votre travail dans certains endroits. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez même pas qu'ils existent. Puis tout d'un coup, il y a un mail qui arrive ou un coup de fil. Et ces choses-là, alors moi, je ne dis pas oui à tout de ce qui arrive comme ça, mais il y a des belles surprises qui font partie de l'accident, de l'aléatoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça peut prendre non pas une place centrale dans l'activité, parce qu'on ne change pas de cheval complètement, mais au fond, d'être un moment dont on sent qu'au fond, ça aura une importance profonde. Moi, les livrets d'opéra, maintenant j'ai écrit 3, je n'avais jamais prévu d'écrire pour l'opéra, je connais très très mal l'opéra, je n'écoute pas d'opéra. C'est des rencontres, il y a des gens qui font du cirque en Belgique et qui m'ont dit on voudrait faire un opéra avec des acrobates. Jamais dans ma vie je me suis dit un jour j'essaierai de rencontrer une compagnie de cirque et je leur dirais si on faisait un opéra, jamais. Mais cette chose là a été très très belle et m'a amené dans le territoire de l'écriture à des endroits où je ne serais pas allé spontanément et qui m'intéressent. Et de la même manière, le côté entre guillemets journalistique ou reportage, des choses qui me sont venues, des gens qui m'ont dit on a lu Eldorado, votre roman, on pense que vous avez quelque chose à dire sur le monde. J'aurais jamais postulé à ces choses-là, mais je pense que leur analyse était juste. J'aimerais dire quelque chose sur le monde de livre en livre. Et donc quand on reçoit une demande comme ça, on dit oui, tout en disant attention, le but du jeu n'est pas de mettre une casquette journaliste et de faire le journalisme. Moi je suis un écrivain, donc si vous voulez que je viens
en tant qu'écrivain,
ce qui veut dire que par exemple les journalistes, je reviens d'un voyage fait avec Arte, je leur ai dit oui, mais à condition que le texte que je vous rende à la fin du voyage, ça peut être un poème. Et je pense que ce sera un poème, un long poème, mais un poème. Cette chose-là, moi, je sais que elle va dessiner quelque chose qui ira bien au-delà de l'expérience ponctuelle que j'ai eue, parce que j'arrive à l'intégrer à la recherche de l'écriture qui m'intéresse, et c'est un beau cadeau qu'ils me font du coup.
Et puis pour toi, donc tu as fait théâtre, donc tu travailles beaucoup sur, disons, ce que disait Strehler, un peu sur l'autobiographique, sur le théâtre à la première personne. Moi, je ne savais pas que tu fais cette exposition sur la peinture, mais tu fais de la peinture. À quoi ça correspond, ce retrait du vivant? Parce que la peinture, quand même, ne s'appuie pas sur le corps vivant, sur la troisième dimension, sur les trois dimensions. Moi, j'avais fait, en préparant cette intervention, je me disais qu'au fond, les seuls gens de théâtre qui avaient fait vraiment de la peinture, je disais à Laurent tout à l'heure, c'était des gens de théâtre qui ne sont pas arrivés au plateau. Gordon Craig, Adolphe Appiah, Artaud, donc qui sont des frustrés du plateau, et comme si là, c'était ma théorie, comme si la peinture, le trait était un substitut du corps vivant. Toi, tu es tout le temps en présence des corps vivants. Pourquoi la peinture ?
Non, évidemment, ce n'est pas de peinture, parce que moi, quand j'ai fait des dessins, je faisais des dessins quand j'avais 4 ans, et j'ai gagné des prix comme dessin, après j'ai arrêté, et maintenant, quand j'ai fait des dessins, je suis resté à 4 ans. Et bon, je ne me crois pas un génie, mais quelqu'un me dit, ah, c'était beau, non, laisse-t'en. Non, mais là, pour moi, cette chose-là, il est né. Avant tout, parce qu'elle m'a proposé, qu'elle m'a donné un espace de 400, 600 mètres pour faire une chose, qu'est-ce que je vous voulais. Et tu dis, pourquoi je ne dis pas, on a la chance de faire une chose, ce n'est pas facile, qu'on a des gens qui te donnent des espaces, tu fais qu'est-ce que tu veux. On a la chance de faire l'artiste. Chez les gens normaux, je vois ma soeur, elle a tout le temps son argent pour travailler, elle a étudié toute la vie. Bon, alors, tu en profites. Avant tout, il y a des casualités que moi j'écoute. Je ne vais pas chercher. Moi, je ne cherche rien. Il arrive les choses. Avant tout, c'est ça. Je ne vais pas chercher. Quand il arrive, il arrive. Et après, l'expérience de faire. Moi, j'avais le désir de faire voir. Il s'appelle Ma mère et les autres. Raconter comme à travers la mort de ma mère, il m'a fait découvrir beaucoup des autres choses. Ce n'est pas la mort comme une chose. Bon, moi, j'ai souffert beaucoup pour ça, mais la mort de ma mère, il m'a ouvert des zones d'inconnus. Moi, quand j'ai fait la cavalerie rusticana, c'est dommage que ma mère ne l'a pas vue. Après, la directrice m'a dit non, puis s'il y avait ta mère, tu n'avais pas fait ça. Ah, c'est vrai. Et après, j'ai fait. Les choses que j'ai fait après ma mère, je ne les pourrais pas faire si ma mère, elle était là. Alors, la mort de ta mère, il devient une chose vivante, qui parle des paroles qui s'appellent éternité. Il se parle de le mystère de la vie, qui sont des paroles qui, surtout, par exemple, en France, ils sont des tabous. Il y a un artiste en France, à New York, qui m'a dit, j'ai fait une exposition ici, qu'il est sur la joie. Mais tu sais, les Français, ils n'aiment pas ces paroles. Parce que les personnes heureuses, ou ils sont idiots, ou ils sont des Américains. Et il a raison. Pour retourner à une chose que je trouve, et le théâtre est bien malade de ça. Tu vois beaucoup les metteurs en scène qui, bon, si tu fais les metteurs en scène grises, comme ça, que tu es, tu vas. Mais ils mettent en scène compliqué, pour être bon, des fois les gens, oh, moi j'aime pas. Parce qu'il y a un peu un problème. Moi je fais des spectacles, des fois je dis la vérité, où il y a à la fin, je peux dire, je sais pas, ça je le sais faire. Le public, ils s'élèvent tous. Les gens, ils applaudissent. Tu passes, tu casses quoi, cause, elle est passée. Hier soir, à Noisy, mais il arrive des madames, il dit non, moi je ne peux pas, je n'aime pas plus pour le bonheur. Ça va, je m'en fous, je fais mes choses, mais il est un peu dangereux. Alors, le théâtre, c'est une rencontre avec d'êtres humains, ou c'est devenu un petit bijouterie. Des fois, je ne peux pas regarder ça. Quand je commence à écouter, non, mon public, moi, il y a des gens qui, en France, vous êtes spécialistes de ça. Il ferme les portes parce qu'il ne veut pas partager une situation qu'il y a tout le public qui s'élève. Moi, non. Moi, je fais être spécial. Et là, je me commence à dire, ma femme court le théâtre. Là, je déteste le théâtre. Je déteste le monde de metteur en scène. Je déteste ces snobberies insupportables qui ils sont seulement au théâtre. Je fais aussi la télé, je fais une fois, pas beaucoup, une fois. À la télé, j'ai trouvé des solutions qu'il a fait Il Grande Fratello. C'était la transmission qui. Et elle travaillait avec la fille qui me disait bon, je fais ça, bon, c'est ça, c'est pas bien. Une fois, j'ai fait une chose qui est bien, une fois, j'ai fait une chose qui n'est pas bien. Oh, j'ai beaucoup plus aimé elle qu'en sortant de mettre en scène. Il est très intelligent. C'est côté de l'artiste. Quand on a les Africains qui sont, on a les Gitans traités comme des esclaves, je ne peux plus. Alors ça, je ne peux plus du théâtre. Et le théâtre, des fois, alors aussi ces côtés-là, il est dangereux. Alors dans mon dernier spectacle, je demande au public de danser. J'imagine quelqu'un à Paris. Oh, insupportable, il demande de danser. Mais maintenant, c'est la révolution. La parole révolution. On doit changer, parce qu'à un moment, il peut être révolution, que je vais me mettre nu, je vais jeter la caca. Je fais, fanculo. C'est bon, ça c'est dur, ça j'en aime. Oui. J'aime lui qu'il arrive dur, ça c'est vrai. Mais maintenant, pour moi, la révolution, c'est mettre vous et dire, maintenant vous mettez, Georges, tu te commences à faire comme ça avec les bras. Je sais qu'il est dur, parce que moi aussi il est très dur. Mais là, je trouve qu'il y a une révolte. Mais les théâtres, il a ouvert à ça, Non, parce que sinon il risque de devenir la saga de la saucisson. Alors moi je vais aller un peu à la saga de la saucisson. Comme ça j'apprends quelque chose de la saga de la saucisson. Et après, l'expérience. On est tout le temps des élèves au fond. Nous on fait ça parce que nous, on a... Alors, des grands maîtres, moi je n'ai pas plu beaucoup dans le théâtre. Je suis sincère, peut-être je suis un peu arrogante. Moi je trouve, les grands maîtres, ils sont morts ou sont un peu morts vivants. Moi je dis qu'ils répètent le risque de les mettre. Moi je suis sincère aussi, Pina Bausch, moi je trouvais qu'à un moment je ne pouvais plus aussi d'elle. Moi, pour moi ça m'a changé la vie, Pina. Mais je ne pouvais plus. Tu vas à la ville, tout, ah, l'hystérie. Pina, pour moi c'est un film horrible. Mais elle est devenue... Alors Pina, elle n'est pas ça plus. Quand à la tête de la ville m'avait demandé d'écrire une chose sur Pina, j'ai raconté une petite histoire, c'est pas moi, c'est Pina qui l'a dit. À Bologne, quand j'étais invité, moi et Bobo, c'était merveilleux, Bobo qui l'a traité tout le temps, un peu comme ça, il disait, Pina, bon, arrête. Hein. Pina, il adorait Bobo, parce que Pina, Bobo, il l'a traité un peu avec distance. C'était génial, lui. Il faisait, quand on était chez elle à travailler, dans son théâtre, il arrive, Pina, il dit, va, après tu viens. Il dit, excuse-moi, dit, j'ai aucune personne, il a dit à Pina Bausch de sortir dans son théâtre, Bobo. Je pourrais parler des bobos dans les prochains livres. Tu dois, Bobo, c'est une case de l'histoire de théâtre important. Je ne dis pas parce que c'est mon bobo, ma bobo, la vérité. On peut écrire des grands livres. Alors, par exemple, ce moment-là, j'ai Pina. Pina, il a raconté une histoire qu'il disait, il était dans des camps de gitans. Et il a invité à danser. Et Pina, il ne voulait pas danser. Parce qu'il avait peur de pas, moi je le dis dans mon spectacle, il avait peur de pas danser comme eux. Il avait peur d'avoir des gitans qui ils dansaient comme, non, il savait pas, il se sentait pas capable de danser comme eux. C'était une acte hallucinante. Comme nous on regarde les différences, qu'elle, Pina Bausch, il se sent pas capable de danser comme des gitans qui sont l'esclave du monde. Je vois, le film de Wenders, il coupe, pas ma phrase, je ne sais pas s'il l'avait, il coupe, tue la première part, il dit, et alors, et dans l'histoire, Pina, il dit qu'alors une gitane, il s'approche à elle et dit, Pina, viens à danser, danse, danse, sinon on est perdu. Moi, j'ai vu le film de Wenders qui dit, danse, danse, sinon on est perdu. Il a levé complètement la première partie, mais c'est fondamental la première partie. Sinon, si Eder Paris, il peut dire, danse, danse, on est perdu. Alors, quand je vois les grands maîtres qui risquent de perdre eux-mêmes le sens profond de les premières regardes, tu apprends dans les maîtres aussi de ne pas faire tomber dans les mêmes risques. Alors, tu t'échappes pour retrouver tout le temps comme tu es comme un enfant. Peut-être que tu fais des choses qui ne sont pas bien. Bon, je ne sais pas si l'espoir est bien. Je ne sais pas si j'ai fait des films. Des fois, j'ai fait avec un film avec Gérard Depardieu. Je ne savais pas le mot en rôle, je ne savais pas la page, je ne savais pas anglais, je ne m'importe rien. Je veux être tout le temps quelqu'un qui recherche pour retourner là. Quand on se sent maître de nous-mêmes, on est mort. On répète tout le temps notre jusqu'à la tombe. Oui, je suis maître de ma main, salut, poum. Et là, pour ça, à la fin, c'est aussi pour ça, moi personnellement, que je suis curieuse, sans idéologie. Sans l'idéologie, ouais. Tu es curieuse des choses, pour retrouver d'êtres humains qui se regardent, non? Pour retrouver peut-être de nouveaux familles, non? Des nouveaux familles. C'est pas la famille du théâtre, c'est des familles. On doit réinventer. Moi, je crois que le théâtre, s'il n'arrive pas à voir dans la salle, réellement, Berman, théâtre en raconte, en rencontre avec d'êtres humains. Je jeterai la parole différemment. C'est nous, on n'est pas capable de faire du théâtre. Pour les aveugles, parce que moi je ne crois pas que les aveugles doivent besoin d'avoir une mécanique. Le théâtre doit être fait. Alors, Arthur, il disait, on fait des théâtres pour les analphabètes, il disait. Moi aussi je suis content, je préfère une phrase d'Arthur, partout Arthur. Une phrase c'est suffisant. Je fais des théâtres pour les analphabètes. Ok, ça va, je comprends. Mais je dirais pour les analphabètes, pour les sourds-muets, pour les aveugles. Si nous on fait du théâtre, qu'il n'arrive pas à les aveugles, nous on n'est pas vraiment du théâtre. C'est ça les rituels. Nous, on parle à les gens qui ne l'écoutent pas. Alors, l'autre fois, je me souviens plus, à Calais. À un moment, après la bataille, j'ai fait danser une femme. Et tu suives, je ne sais pas qui, je suis les personnes avec une intuition. Et tout le temps, je prends quelqu'un de parfait. Je prends une femme et la madame à côté d'elle, elle me dit, elle est aveugle. Elle est aveugle. Je devais faire danser. Alors, dans ce moment, t'es schizophrénique, il n'aime pas de toi, il dit non, l'aveugle, c'est pas bien l'autre. Ah, enfin, cool, ça fait. Je la prends, je l'accompagne, elle était magnifique. Je vis dans ses yeux, il y avait quelque chose, après je l'ai accompagnée, normalement. Et tu dis, ah, là, c'est le théâtre. Cioè, c'est ça, lui a dit, toi. Quand une fois j'étais à Torin, c'est en ce moment-là que des gens, les Parisiens, se scandalisent parce que je fais danser la danse. C'est lui de l'Odéon, je ne peux pas dire. Il s'appelle Eric Bach, il m'a dit, mon Parisien, il n'aime pas que tu fais danser les gens. Moi, j'adore faire danser les gens. Plus, encore plus, à Paris, je vais mettre là pour danser les gens. Mais quand je vis une fois à Rome, je ne me souviens plus, à Torin, un monsieur qui dormait dans un spectacle. Parce que tu sais, au théâtre italien, il va avec sa femme, aussi un peu au théâtre en français. La femme, il accompagne le mari parce qu'il a l'abonnement. Et lui, il va et commence à ronfler. Et tu comprends toute l'histoire. Qu'elle, il adore le théâtre. Oui, j'adore le théâtre. Lui, il ne veut pas voler pour le voir le football, mais bon, il va. Il faut se sentir cultivé. Mais tu vois, commence à dormir un peu. Je le connais très bien maintenant, tu sais. Je suis tout le temps dans les publics, plus en plus. Il y a la typologie en Italie. Alors, à un moment, je dis, ah, les messieurs, ils dorment. Je dis, ah, ça va, comment on peut dormir dans ce spectacle? Et à un moment, lui, il se lève. Non, je l'avais fermé, je me souviens plus. Mais c'est clair qu'il était. Il se lève comme ça. Touf, il commence, avec les yeux fermés, et il commence à marcher. Tout le monde dit, bon, c'est quelqu'un de la compagnie. Parce que quand il va de fou, il dit, c'est de la compagnie des Pipo del Bono. Le problème, ce n'était pas de la compagnie. Et moi, j'étais le seul qui savait la vérité. C'était quelqu'un qui est entré dans une forme d'hypnotise. Oh merde. Alors, lui, il se commence à lever avec les yeux, il avait les yeux fermés. Et tout le monde dit, riez. Moi, j'étais le seul, je dis, la compagnie, elle dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Et commence à marcher dans la salle. Moi, je le suis et il monte avec les yeux fermés, il monte sur le plateau. Il se met parfaitement à droite. Moi, quand je mets à droite, je préfère ici. Jamais je mets à droite là, c'est tout le temps là. Però c'est parfait. Et c'est parce qu'après, il avait la scène, il arrive à la disque comme ça, c'était parfait. Il regarde là, il reste avec les yeux. Après, ben, je monte, je le prends, je l'accompagne. Non, et tout le monde il a pensé que c'est de la compagnie, mais c'est pas de la compagnie. C'est un homme qui est entré dans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Et à la fin, le vieux qui dormait, il se lève, il commence à applaudir. Et sa femme, il était, il dit, oh mamma mia, alors là, c'est le théâtre. Il passe pas tout le temps. Mais ça, pour moi, c'est mon objectif. Que tu as les gitans, que tu as les africains, qu'on a dans. Alors là, on a gagné. Qu'on a les gitans, qu'on a les africains, qu'on a les personnes qui arrivent en Afrique, là on fait du théâtre encore. Sinon, le théâtre, il se doit réfléchir. Moi je suis extrême. Je te dis la vérité. Tu m'as demandé qu'est-ce que je pense, et je suis extrême.
Écoutez, je vous remercie beaucoup et on a rendez-vous le 23 janvier avec. Jean-François Perret et René Secati autour du thème humain, trop humain. Donc, ce sont des questions qui se posent dans le théâtre, dans l'écriture de ces deux écrivains, essayistes, gens de théâtre. Et donc, on vous convie, si vous voulez venir, revenir le 23 janvier, après les fêtes et dans la nouvelle année. Et merci encore, Laurent, merci, Pipo.